La semaine s'est ouverte avec un anniversaire, celui de la première année d'un Soudan du Sud souverain. Depuis la proclamation de son indépendance le 9 juillet 2011, l'euphorie a laissé place à la dure réalité. Cette réalité, c'est d'abord le conflit ouvert avec Khartoum et l'arrêt de sa production de pétrole qui l'a privé de 98% de ses revenus. C'est aussi des infrastructures et une administration quasi inexistante. Alors au-delà de ces chiffres, quel bilan peut-on faire de l'année écoulée ? Ancien chercheur du CNRS, Christian Delmet, nous livrait son analyse.
On n'a pas progressé, de toute façon, dans les six années de régime intérimaire, de 2005 à 2011, on n'a pas beaucoup fait pour construire ce Sud-Soudan, qui a souffert d'agressions diverses lui-même, et on est au bord d'une crise humanitaire, tout est à faire. L'argent arrivé était pour 50%, et encore aujourd'hui, consacré aux dépenses militaires. Bon, obligatoire ou pas, on peut juger comme on veut. Mais le pouvoir de Djouba n'a pas encore réussi à se fortifier sur le plan de ses relais administratifs, politiques et autres pour le bien commun.
En Égypte, le président Mohamed Morsi n'aura pas attendu longtemps avant d'user de son autorité. Il a rétabli par décret l'Assemblée constituante qui avait été dissoute sur décision de la Haute Cour constitutionnelle. Une décision qui défie directement les militaires du Conseil suprême des forces armées qui s'étaient alors arrogé les pouvoirs législatifs. Mohamed Morsi, un frère musulman, a pris cette décision à la surprise générale, sans aucun doute en accord avec la confrérie qui domine l'Assemblée constituante. Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Proche-Orient, est revenu pour nous sur ce coup de poker politique du nouveau président égyptien.
Il y a un coup de force contre l'institution militaire qui a été décidé par les frères musulmans avec l'idée qu'ils ont une légitimité démocratique. Dans la mesure où ils ont la majorité au Parlement, après des élections législatives qui n'ont pas été contestées, et puis après cette élection présidentielle, qui est certainement en réalité le résultat d'un accord tacite entre l'institution militaire et les frères, hein, dans la mesure où, au premier tour, les militaires ne se sont pas privés de truquer les élections de manière à faire arriver en seconde position l'un des leurs, un général notoirement corrompu, Ahmed Shafik, qui finalement a été défait.
La Syrie s'est encore un peu plus enfoncée dans la violence au cours de la semaine passée. Dernier massacre en date, celui de Tramsa dans le centre du pays. Une tuerie de près de 200 villageois qui a révulsé la communauté internationale. L'émissaire de l'ONU Kofi Annan a reconnu l'échec de son plan de sortie de crise avant de se rendre à Damas, puis à Téhéran. Alors que l'Iran est aujourd'hui l'allié le plus solide du régime syrien, la question est en effet de savoir quel rôle il peut jouer dans la résolution de la crise. Écoutez la réponse de Bernard Ourcade, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de l'Iran.
L'Iran est un partenaire essentiel de la crise syrienne dans la mesure où la Syrie est le principal partenaire arabe de l'Iran et l'Iran a une relation avec le Hezbollah et le Liban via la Syrie et donc aucune solution politique n'est possible sans effectivement la participation iranienne. Le problème est que l'Iran est un pays qui est en dehors des systèmes de sécurité mondiaux, en raison de la crise du nucléaire notamment, et donc c'est bien difficile actuellement de faire rentrer l'Iran dans la concertation, mais c'est une évidence à mon avis si on veut trouver une solution.
En RDC, c'est une mutinerie et non une révolution qui inquiète le pouvoir en place. Elle est menée par le mouvement du M23 qui opère dans la région du Nord Kivu. Depuis le début de sa rébellion en avril, les mutins ne cessent de se renforcer, notamment grâce au soutien du Rwanda, comme l'a affirmé en juin un rapport de l'ONU. Envoyés sur place, les enquêteurs d'Amnesty International ont recueilli des témoignages qui confirment les accusations des Nations Unies et ont aussi obtenu les preuves que des soldats en rupture de banc recrutent par la force des combattants. C'est ce que nous expliquait Akras Sebaï d'Amnesty International.
D'hostilités en avril, le M23 a multiplié les opérations de recrutement, notamment beaucoup d'informations faisant état de recrutement de mineurs dans le territoire du Massissi. Puis, lorsque les combats se sont déplacés dans le territoire de Rutshuru, on a notamment appris la mort vendredi dernier de deux jeunes hommes qui avaient été tués à Goma parce qu'ils auraient refusé de combattre aux côtés des mutins.
Alors que la RDC est aux prises avec une rébellion, le Nord Mali continue sa descente aux enfers. Les islamistes qui règnent en maître y perpétuent des exactions contre les populations et contre le patrimoine culturel. Dans un rapport publié cette semaine, la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, est revenue sur les crimes perpétrés ces derniers mois par les groupes armés qui contrôlent le nord du Mali. Viols, exécutions sommaires, pillages, destruction de mausolées musulmans et d'églises, François Gel, responsable du bureau Afrique à la FIDH, nous présentait les résultats de ce travail d'enquête.
Évidemment, à Tombouctou, ce qui est très inquiétant, c'est la destruction du patrimoine culturel et religieux, qui est tout à fait symptomatique de ce que les islamistes sont en train d'imposer à tout le nord du Mali. Mais c'est vrai que ce qui nous inquiète, c'est la multiplication de ces violations des droits de l'homme, de l'imposition de la charia. On bat les gens, on leur coupe la main, on les exécute éventuellement. Et cette instauration d'un régime extrêmement dur, extrêmement radical, laisse présager, comme dans d'autres pays, Afghanistan ou ailleurs, d'une sorte d'afghanistanisation du Mali.